RFI 8h30, à Paris 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit, sur les berges du lac Kivu, Bukavu, aussi entre la confiance et l'incertitude.
Un reportage à la une de cette édition dans ce chef-lieu du sud Kivu, alors que la guerre fait rage au nord. Guerre toujours entre l'armée congolaise et ses soutiens face au M23 appuyé par le Rwanda. Goma lourdement endeuillé, 700 morts, disent les Nations Unies. Les chefs d'État de la SADC soutiennent pleinement Kinshasa, mais ne condamnent pas explicitement le Rwanda. Quelques degrés de plus sur le thermomètre diplomatique entre le Bénin et le Niger, l'ambassadeur nigérien à Cotonou présente ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères. La société civile guinéenne demande une fois de plus la clarté sur le drame de Nzérékoré, bousculade mortelle aux abords d'un stade de foot le 1er décembre, il y a donc tout juste 2 mois. Contester, s'exprimer, braver les interdits, oui, mais à condition de demander la permission, tour de vis dans l'est de la Libye, les rappeurs notamment sont priés de soumettre leur flow à autorisation avant de publier quoi que ce soit. Les Nations Unies estiment désormais que 700 personnes au moins sont mortes à Goma cette semaine lors de la percée du M23 soutenue par le Rwanda dans cette capitale provinciale de l'est de la RDC. 2800 blessés et ces chiffres que l'ONU redoute de voir augmenter encore. Si le chef-lieu du Nord Kivu semble avoir retrouvé un semblant de normalité ces 48 dernières heures, les combats sont encore très virulents dans le territoire de Calais, plus au sud. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU faisait part de son inquiétude l'autre jour quant à une possible progression du groupe armé. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a d'ailleurs interdit la navigation sur le lac Kivu, d'abord totalement, avant d'assouplir un peu la mesure. William Bassimike, correspondant de RFI, a voulu savoir comment les habitants percevaient cette situation crispée. Reportage.
Regard rivé vers les barges et bateaux mobilisés au port, Hazina est venue attendre sa fille que la mesure a trouvée en vacances sur une île du lac Kivu.
Mon village s'est éduit. Ceux qui y vivent dépendent de Bukavu. Comment peuvent-ils trouver à manger? Comment peuvent-ils vivre? Ils viennent se ravitailler ici chaque lundi, vendredi et presque chaque jour. Et ils rentrent. J'ai envoyé ma fille avant-hier pour aller visiter sa sœur. Ça a été difficile pour elle de revenir chez nous.
Après avoir suspendu la navigation de toutes les embarcations sur le lac Kivu jusqu'à nouvel ordre, les gouverneurs du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourroussi, l'a adouci en les autorisant à aller jusqu'à l'île d'Idjui. Alain Imani apprécie malgré tout.
Ça nous gêne, bien sûr, mais c'est pour notre sécurité. Nous allons manquer de bananes, de poissons, de pommes de terre, d'ananas. Nous avons des militaires de la marine congolaise. Je suggère qu'ils renforcent la sécurité sur le lac afin de protéger les habitants.
Juste à côté, Claude Amani estime que le Sud Kivu peut se débrouiller autrement en attendant que la situation se rétablisse.
La nourriture peut provenir d'autres territoires que Walungu, Kabaré, Uvira, pourvu qu'il y ait la sécurité. Nous allons patienter, mais nous n'allons pas nous y habituer.
La sécurité a été renforcée au bord du lac Kivu et sur les coins chauds de la ville. William Bassimike, Bukavu. RFI.
Sur le volet diplomatique de cette crise, la communauté de l'Afrique australe se réunissait hier à Harare. La SADC particulièrement impliquée puisqu'elle déploie une mission dans le Nord Kivu. Le président congolais Félix Tshisekedi assistait en visioconférence à ce sommet. Il en attendait notamment une condamnation explicite du Rwanda pour son soutien au groupe armé. Les 4 heures de réunion à huis clos ne vont pas jusque-là. La SADC appelle à un nouveau sommet conjoint cette fois avec la communauté d'Afrique de l'Est en redisant aussi son soutien indéfectible à Kinshasa. Correspondance régionale Claire Bargelès.
Après plus de 4 heures de réunion à huis clos, le communiqué final ne mentionne pas l'avenir des troupes de la SAMIDRC en grande difficulté sur place face au M23. Le secrétaire de l'organisation régionale a rappelé les objectifs de cette mission visant à soutenir la RDC dans sa quête de paix et de sécurité et à défendre son intégrité territoriale. Le sommet a noté que ces objectifs n'ont pas encore été réalisés, a-t-il ajouté, indiquant que la voie diplomatique reste avant tout privilégiée. La troïka de la SADC, soit l'organe chargé des questions de défense et de sécurité, est présidée par la dirigeante tanzanienne Samia Suluhu Hassan, a désormais la charge de se rapprocher de toutes les parties prenantes afin de tenter de rétablir un cessez-le-feu que Pretoria appelle de ses vœux. Alors que côté congolais, on espérait, selon une source proche de la présidence, une condamnation explicite de Kigali et la demande de retrait de ses troupes, les dirigeants se sont contentés de réaffirmer leur soutien indéfectible indéfectible envers Kinshasa. Enfin, la SADC a entériné la proposition de la Communauté d'Afrique de l'Est qui vise à organiser un sommet conjoint entre les deux institutions. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Il est 9h35 à Johannesburg. Un pas supplémentaire franchi dans le réchauffement des relations entre le Bénin et le Niger, puisque le nouvel ambassadeur du Niger au Bénin est arrivé à Cotonou et qu'il a pu présenter surtout une copie de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Cheikhoun Bakary. Cela fait un peu plus de 2 mois que Chaibou Kakadé a été nommé comme ambassadeur. On rappelle que les relations entre les deux pays sont toujours particulièrement crispées, notamment sur la question de leurs frontières. Niamey la maintient fermée de son côté, en suspectant toujours son voisin du Sud de vouloir le déstabiliser. Mais Jean-Luc Aplogan, le dégel semble bel et bien en marche.
Le diplomate nigérien, greffier de formation, a été reçu environ 1 heure par le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Il était accompagné de la chargée d'affaires, du consul et de l'attaché de défense. Les échanges ont tourné autour de la décrispation commencée en juillet dernier, qui n'est pas encore totale. Les deux pays ont nommé leurs ambassadeurs respectifs. Le Béninois exerce déjà pleinement ses fonctions à Niamey. Autre signe d'apaisement, le chargement régulier et sans encombre du brut nigérien sur la plateforme de Semepoji. Un nouveau navire est d'ailleurs annoncé pour le 3 février prochain. Le point noir reste la réouverture de la frontière terrestre entre les deux pays en raison des soupçons de Niamey. La réunion proposée entre les états-majors des deux pays pour régler le problème ne s'est toujours pas tenue. Une piste explorée en ce moment pour achever la décrispation, la tenue de la grande commission mixte prévue en 2023 est décalée. Plusieurs diplomates l'appellent de leur vœu. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
2 mois tout juste après le drame de Nzérékoré, les défenseurs guinéens des droits de l'homme rappellent leur exigence de transparence. Le 1er décembre, la finale d'un tournoi de foot organisé en l'honneur de Mamadi Doumbouya tourne à la bousculade mortelle au stade du 3 avril. 56 morts selon un bilan officiel que conteste un collectif d'organisations locales. Elles en ont recensé 135. Il y a 4 jours, le rapport de la commission d'enquête administrative aurait été remis au premier ministre de transition, Bahouri, mais ce rapport n'est pas public. Et l'OGDH, Organisation Guinéenne des Droits de l'Homme, le déplore. Alseni Sall, son porte-parole, le dit à Diaroga Aziz Baldé.
On parle de plus de 100 morts quand même dans un stade. Il est important quand même que, quel que soit ce qui s'est passé, que les responsabilités soient soutenues pour qu'on sache qui a fait quoi et pour permettre aux familles quand même de faire leur deuil.
Et là, actuellement, vous ne pouvez ni confirmer ni infirmer qu'il y a eu une enquête, qu'elle soit administrative ou judiciaire, qui a été ouverte?
Aucunement. On n'a aucune visibilité. Comme je l'ai dit, depuis les annonces et du départ, il n'y a aucune communication du côté du gouvernement. Il n'y a aucune visibilité par rapport à cette situation. Nous demandons à ce que des enquêtes soient faites. Nous demandons aujourd'hui une communication officielle des autorités pour soutenir, en tout cas, les Guinéens, les familles des victimes par rapport à l'évolution de la procédure d'enquête qui avait été annoncée par les autorités à la suite de ces événements.
Alseni Sall pour l'OGDH. J'ajoute que les autorités de transition n'ont pas accédé à nos demandes d'entretien. Un éboulement survenu dans une mine artisanale de la région de Koulikoro au Mali a fait plusieurs victimes selon le gouvernorat. Cela s'est passé mercredi dans le village de Danga, près de la frontière avec la Guinée justement. Et les conditions des recherches sont difficiles, notamment parce qu'une partie du site est sous les eaux. Le Togo annonce son intention d'y voir clair dans la gestion financière de ses sociétés publiques. Lomé annonce des audits d'abord dans 6 grandes entreprises d'État. Tout cela entrerait dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international qui conditionne ses enveloppes à une bonne tenue des comptes publics. Mais ces audits surviennent aussi quelques semaines après la publication d'un rapport qui a fait bondir opposants et organisations citoyennes. Un rapport où l'on apprenait que certaines de ces sociétés ne contribuent pour rien ou quasiment rien au budget de l'État. Peter Sassou Dogbé, donc, qui sont les premières structures concernées?
La Société Nouvelle des Phosphates, le port autonome de Lomé, la Compagnie d'énergie électrique, la Togolaise des Eaux, la Loterie Nationale Togolaise et l'Union Togolaise des Banques sont concernés par cet audit. Une initiative pour réorganiser les entreprises publiques afin d'optimiser leurs performances et alléger les risques, explique un rapport du FMI cité dans le journal en ligne Togo First. Un haut fonctionnaire du ministère des Finances confirme ce prochain audit et indique « Des audits, il y en a souvent et périodiquement. Pour autant, cette décision intervient après la publication il y a quelques jours d'un rapport de la Cour des comptes. L'institution a révélé la participation non conséquente de ces sociétés au budget national. » Un exemple, selon ce rapport, la Société Nouvelle des Phosphates en 2022 a fait entrer 0 franc au budget de l'État. Où va l'argent? S'est interrogé en janvier Nathaniel Olympio du Front Touche pas à ma Constitution, une coalition de partis politiques et des organisations de la société civile qui souhaitent un audit crédible dans un délai raisonnable et une inclusion citoyenne. Peter Sassoudogbe, Lomé, RFI.
Des artistes qui doivent s'engager à ne pas dire de grossièreté. Des spectacles soumis à une autorisation préalable. Les autorités de l'Est de la Libye adoptent une batterie de mesures restrictives quant à la liberté artistique et à la liberté de création. Des mesures qui semblent viser tout particulièrement le rap, ces textes de révolte et de contestation et ces clips viraux qui se diffusent en un claquement de doigts. Quiconque veut sortir un morceau doit d'abord promettre de ne choquer personne, Ouda Ibrahim.
Selon la circulaire du ministère de l'Intérieur du gouvernement de l'Est libyen, un chanteur et compositeur de rap doit au préalable signer un engagement indiquant qu'il n'utilisera pas dans ses chansons des mots obscènes qui pourraient heurter les valeurs sociales. Les textes ne doivent pas non plus contenir des expressions ou des paroles qui pourraient pousser le moins de 18 ans à commettre des délits ou des actes de rébellion contre l'autorité parentale et sociétale. La circulaire se réfère aux articles de la loi libyenne en matière de moralité publique et de religion. Elle mentionne que certaines chansons qui circulent fortement parmi les jeunes ne respectent pas les valeurs libyennes. Mais désormais, toujours selon la circulaire, toute production scénique, musicale, théâtrale, dansante ou autre doit avoir une autorisation sécuritaire préalable et avant même sa diffusion à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Cette décision toute récente commence à susciter la polémique dans le milieu artistique. Elle inquiète les défenseurs de droit en Libye et surtout à l'Est où, au début de l'année, une décision d'interdire de fêter le jour de l'an a également été prise et appliquée par le ministère de l'Intérieur.
Ouda Ibrahim, à 8h42 à Paris pour la suite et la fin de RFI Matin avec Julien Coquel-Rohem.
Merci Edouard Dupénoat, bonne journée.